Le premier pas de la terreur. L'année 1791, si tristement ouverte par la scène du 4 janvier, offre tout d'abord l'aspect d'un revirement funeste, d'un violent démenti au principe de la Révolution. La liberté foulant aux pieds les droits de la liberté, l'appel à la force. L'appel à la force brutale, d'où part-il? Chose surprenante, des hommes les plus cultivés. Ce sont des légistes, des médecins, des gens de lettres, des écrivains. Ce sont des hommes de l'esprit qui, poussant la foule aveugle, veulent décider les choses de l'esprit par l'action matérielle. Marat était parvenu à organiser dans Paris une sorte de guerre entre les vainqueurs de la Bastille. Hulin et d'autres, qui s'étaient enrôlés dans la garde nationale soldée, étaient désignés par lui à la vengeance du peuple comme mouchards de Lafayette. Ils ne se contentaient pas de donner leur nom, ils y joignaient leur adresse, la rue et le numéro pour que, sans autre recherche, on allât les égorger. Ces feuilles étaient réellement des tables de proscription où il inscrivait à la légère, sans examen, sans contrôle, tous les noms qu'on lui dictait. Des noms chers à l'humanité, depuis le 14 juillet. Celui du vaillant Élie, celui de Monsieur de La Salle, oublié par la gratitude du nouveau gouvernement, n'en était pas moins inscrit par Marat, pêle-mêle avec les autres. Il a voulu même que dans sa précipitation, il a confondu La Salle avec l'horrible de Sade, la femme et sanguinaire auteur. Une autre fois, il inscrit parmi les modérés, les fayettistes, Maillard, l'homme du 5 octobre, le juge du 2 septembre. Malgré toutes ces violences et ces légèretés criminelles, l'indignation visiblement sincère de Marat contre les abus m'intéressait à lui. Je dois le dire, ce grand nom d'ami du peuple commandait aussi à l'histoire un sérieux examen. J'ai donc religieusement instruit le procès de cet homme étrange, lisant la plume à la main ses journaux, ses pamphlets, tous ses ouvrages. Je savais par beaucoup d'exemples combien le sentiment du droit, l'indignation, la pitié pour l'opprimé peuvent devenir des passions violentes et parfois cruelles. Qui n'a vu 100 fois les femmes à la vue d'un enfant battu, d'un animal brutalement maltraité, s'emporter aux dernières fureurs? Marat n'a-t-il été furieux que par sensibilité, comme plusieurs semblent le croire? Telle est la première question. S'il en est ainsi, il faut dire que la sensibilité a d'étranges et bizarres effets. Ce n'est pas seulement un jugement sévère, une punition exemplaire, que Marat appelle sur ceux qui l'accusent. La mort ne lui suffirait pas. Son imagination est avide de supplices. Il lui faudrait des bûchers, des incendies, des mutilations atroces. Marquez-les d'un fer chaud, coupez-leur les pouces, fendez-leur la langue, etc., etc. Quel que soit l'objet de ses emportements, qu'on le suppose ou non coupable, il n'avilise pas moins celui qui s'y livre. Ce ne sont pas les graves, les saintes colères d'un cœur vraiment atteint de l'amour et de la justice. On croirait plutôt y voir le délire d'une femme hors d'elle-même, livrée aux fureurs hystériques ou près de l'épilepsie. Ce qui étonne encore plus, c'est que ces transports, qu'on voudrait expliquer par l'excès du fanatisme, ne procèdent d'aucune foi précise qu'on puisse caractériser. Tant d'indécision avec tant d'emportement, c'est un spectacle bizarre. Il court furieux, ou court-il? Il ne saurait bien le dire. Si nous devons chercher les principes de Marat, ce n'est point apparemment dans les ouvrages de sa jeunesse, j'en parlerai tout à l'heure, mais dans ceux qu'il écrivit en pleine maturité, en 89 et 90, au moment où la grandeur de la situation pouvait augmenter ses forces et l'élever au-dessus de lui-même. Sans parler de l'ami du peuple, commencé à cette époque, Marat publia en 89 la Constitution ou projet de déclaration des droits, suivi d'un plan de constitution juste, sage et libre. De plus, en 90, son plan de législation criminelle, dont il avait déjà donné un essai en 1780. Il offrit ce dernier ouvrage à l'Assemblée nationale. Au point de vue politique, ces ouvrages extrêmement faibles n'ont rien qui les distingue d'une infinité de brochures qui parurent alors. Marat y est royaliste et décide que, dans tout grand état, la forme de gouvernement doit être monarchique, c'est sa seule qui convienne à la France, Constitution page 17. Le prince doit être recherché que dans ses ministres, sa personne sera sacrée, page 43. En février 91, Marat est encore royaliste. Au point de vue social, rien. Absolument rien qu'on puisse dire propre à l'auteur. On lui sait gré toutefois de l'attention particulière qu'il donne au sort des femmes, de sa sollicitude pour réprimer le libertinage, etc. Cette partie de son plan de législation criminelle est excessivement développée. Il y a des observations, des vues utiles qui font pardonner tel détail inconvenant, et peu à leur place, par exemple la peinture du vieux libertin, etc. Législation, page 101. Les remèdes que l'auteur veut appliquer aux maux de la société sont peu sérieux. Tel qu'on ne s'attendrait guère à les voir proposés par un homme de son âge et de son expérience, un médecin de 45 ans. Dans sa législation criminelle, il demande des pénalités gothiques contre le sacrilège et le blasphème, amende honorable aux portes des églises, etc., page 119-120, et, dans sa constitution, il n'en parle pas moins légèrement du christianisme et des religions en général. Ces deux ouvrages n'auraient certainement attiré aucune attention si l'auteur ne partait d'une idée qui ne peut jamais manquer d'être bien reçue, qui devait l'être singulièrement alors dans les extrêmes misères d'une capitale surchargée de 200 000 indigents, la faiblesse ou l'incertitude du droit de propriété, le droit du pauvre à partager, etc., etc. Dans son projet de constitution, page 7, Marat dit en propre terme, en parlant des droits de l'homme, « Quand un homme manque de tout, il a droit d'arracher à un autre le superflu dont il regorge. Que dis-je ? Il a droit de lui arracher le nécessaire. Et plutôt que de périr de faim, il a le droit de l'égorger et de dévorer sa chair palpitante. » Il ajoute dans une note, page 6, « Quel qu'attentat que l'homme commette, quel qu'outrage qu'il fasse à ses semblables, il ne trouble pas plus l'ordre de la nature qu'un loup quand il égorge un mouton. » Dans son livre sur l'homme, publié en 1775, il avait déjà dit « La pitié est un sentiment factice, acquis dans la société. N'entretenez jamais l'homme d'idées, de bonté, de douceur, de bienfaisance, et il méconnaîtra toute sa vie jusqu'au nom de pitié. » Voilà l'état de nature selon Marat. Terrible état. Le droit de prendre à son semblable, non seulement le superflu qu'il peut avoir, mais son nécessaire, mais sa chair, et de la manger. On croirait d'après ceci que Marat est bien loin au-delà de Morelli, de Babeuf, etc. Qu'il va fonder ou la communauté parfaite ou l'égalité rigoureuse des propriétés. On se tromperait. Il dit, Constitution page 12, qu'une telle égalité ne saurait exister dans la société, qu'elle n'est pas même dans la nature. On doit désirer seulement d'en approcher autant qu'on peut. Il avoue, législation criminelle page 19, que le partage des terres pour être juste n'en est pas moins impossible, impraticable. Marat relègue dans l'état de nature, antérieur à la société, ce droit effrayant de prendre même le nécessaire du voisin. Dans l'état de société, reconnaît-il la propriété ? Oui, ce semble, généralement. Cependant, à la page 18 de sa législation criminelle, il semble la limiter au fruit du travail, sans l'étendre jusqu'à la terre où ce fruit est né. Au total, comme socialiste, si on veut lui donner ce nom, c'est un éclectique flottant, très peu conséquent. Il faudrait, pour l'apprécier, faire ce que nous pouvons ici, l'histoire de ce vieux paradoxe, dont Marat approcha toujours sans y tomber tout à fait, de cette doctrine qu'un de nos contemporains a formulée en trois mots, la propriété, c'est le vol. Doctrine négative qui est commune à plusieurs sectes, du reste fort opposée. Rien de plus facile que de supposer une société juste, aimante, parfaite de cœur, pure en corps et abstinente, condition essentielle, qui fonderait et maintiendrait une communauté absolue de biens. Celle des biens est fort aisée quand on a celle des cœurs. Et qui donc n'est communiste dans l'amour, dans l'amitié ? On a vu une telle chose entre deux personnes au dernier siècle, entre Pechmeja et Dubreuil qui vécurent et moururent ensemble. Pechmeja essaya, dans un poème en prose, le Téléf, ouvrage malheureusement faible et de peu d'intérêt, de faire partager aux autres l'attendrissante douceur qu'il trouvait à n'avoir rien d'impropre que son ami. Le Téléf de Pechmeja n'enseigna pas la communauté plus efficacement que n'avait fait la Basiliade de Morelli et son Code de la Nature. Tous les poèmes et les systèmes qu'on peut faire sur cette doctrine supposent, comme point de départ, ce qui est la chose difficile entre toutes, ce qui serait le but suprême, l'union des volontés. Cette condition si rare qu'on trouve à peine en quelques âmes d'élite, à Montaigne, à la Boétie, dispenserait de tout le reste. Elle-même, elle est indispensable. Sans elle, la communauté serait une lutte permanente où, si on l'imposait par la loi, par la terreur, ce qui ne peut durer guère, elle paralyserait toute activité humaine. Pour revenir à Marat, il ne paraît nulle part soupçonner l'étendue de ces questions. Il les pose en tête de ses livres comme pour attirer la foule, battre la caisse, se faire écouter. Et puis, il ne résout rien. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il veut une large charité sociale, surtout aux dépens des gens riches. Chose raisonnable, certainement, mais il faudrait mieux dire le mode d'exécution. Nul doute que ce ne soit une chose odieuse, impie, que de voir tel impôt peser sur le pauvre, épargner le riche. L'impôt ne doit porter que sur nous qui avons. Mais le politique ne doit pas, comme Marat, s'en tenir aux plaintes, aux cris, aux vœux. Il doit proposer des moyens. Ce n'est pas sortir des difficultés que de s'en remettre. Comme tous les utopistes de ce genre, à l'excellence présumée des fonctionnaires de l'avenir, de dire, par exemple, qu'on en donne la direction à quelque homme de bien et qu'un magistrat intègre en est l'inspection. Marat, législation criminelle, page 26. Montre-t-il dans son journal, en présence des nécessités du temps, plus d'intelligence pratique ? Pas davantage. On n'y trouve que des choses très décousues et très vagues, rien de neuf comme expédient, rien qu'on puisse appeler théorie. Au moment où la municipalité entre en possession des couvents et autres édifices ecclésiastiques, il propose d'y établir des ateliers pour les pauvres, de mettre des ménages indigents dans les cellules, dans le lit des moines et religieuses. 11-14 juin 90. Nulle conclusion générale relativement au travail dirigé par l'État. Lorsque la loi des patentes, la misère de Paris, les demandes d'augmentation de salaire attirent son attention, propose-t-il quelques remèdes nouveaux ? Nul que de rétablir les apprentissages longs et rigoureux, d'exiger les preuves de capacité, de mettre un prix honnête au travail des ouvriers, de donner aux ouvriers qui se conduiront bien pendant 3 ans les moyens de s'établir. Ceux qui ne se marieront pas rembourseront au bout de 10 ans. Quel fonds assez vaste pour doter des populations si nombreuses ? Marat ne s'explique point là-dessus. Seulement, dans une autre occasion, il conseille aux indigents de s'associer avec les soldats, de se faire assigner de quoi vivre sur les biens nationaux, de se partager les terres et les richesses des scélérats qui ont enfoui leur or pour les forcer par la faim à rentrer sous le joug, etc. Je voulais avant tout examiner si Marat, en 90, lorsqu'il prend sur l'esprit du peuple une autorité si terrible, examiner, dis-je, s'il a posé une théorie générale, un principe qui fonda cette autorité. L'examen fait, je dois dire non. Il n'existe nulle théorie de Marat. Je puis maintenant à mon aise reprendre ses précédents. Chercher si, dans les ouvrages de sa jeunesse, il aurait par hasard posé ce principe d'où peut-être il a cru n'avoir qu'à tirer les conséquences. Marat était des environs de Neuchâtel comme Rousseau de Genève. Il avait 10 ans, en 1754, au moment où son glorieux compatriote lança le discours sur l'inégalité. 20 ans, lorsque Rousseau, ayant conquis la royauté de l'opinion, la persécution et l'exil, revint chercher un asile en Suisse et se réfugia dans la principauté de Neuchâtel. L'intérêt ardent dont il fut l'objet, les yeux du monde fixés sur lui, ce phénomène d'un homme de lettres faisant oublier tous les rois sans excepter Voltaire, l'attendrissement des femmes éplorées pour lui, on pourrait dire amoureuses, tout cela saisit Marat. Il avait une mère très sensible, très ardente, il le compte ainsi lui-même, qui, solitaire au fond de ce village de Suisse, vertueuse et romanesque, tourna toute son ardeur à faire un grand homme, un Rousseau. Elle fut très bien secondée par son mari, digne ministre, savant et laborieux, qui de bonne heure entassa tout ce qu'il put de sa science dans la tête de l'enfant. Cette concentration d'efforts eut pour résultat naturel d'échauffer la jeune tête outre mesure. La maladie de Rousseau, l'orgueil, y devint vanité, mais exalté en Marat à la 10e puissance. Il fut le singe de Rousseau. Il faut l'entendre lui-même, dans l'Ami du peuple de 93. À 5 ans, j'aurais voulu être maître d'école, à 15 professeur, auteur à 18, génie créateur à 20. Plus loin, après avoir parlé de ses travaux dans les sciences de la nature, 20 volumes, dit-il, de découvertes physiques, il ajoute froidement « Je crois avoir épuisé toutes les combinaisons de l'esprit humain sur la morale, la philosophie et la politique. » Comme Rousseau, comme la plupart des gens de son pays, il partit de bonne heure pour chercher fortune, emportant avec son magasin mal rangé de connaissances diverses le talent plus profitable de tirer les simples quelques remèdes empiriques. Tous ces Suisses de montagne sont quelque peu botanistes, droguistes, etc. Marat se donne ordinairement le titre de docteur en médecine. Je n'ai pu vérifier s'il l'avait réellement. Cette ressource interne ne fournissait pas tellement qu'à l'exemple de Rousseau, à l'exemple du héros de la nouvelle Héloïse, il ne fut aussi parfois précepteur, maître de langue. Comme tel ou comme médecin, il eut occasion de s'insinuer près des femmes. Il fut quelque temps le saint preux d'une Julie qu'il avait guérie. Cette Julie, une marquise délaissée de son mari qui l'avait rendue malade, fut sensible aux ailes du jeune médecin, plus qu'à sa figure. Marat était fort petit. Il avait le visage large, osseux, le nez épaté. Avec cela, il est vrai, d'incontestable qualité. Le désintéressement, la sobriété, un travail infatigable, beaucoup d'ardeur, beaucoup trop. La vanité gâtait tout en lui. La Suisse a toujours fourni l'Angleterre de maîtres de langue et de gouvernantes. En 1772, Marat enseignait le français à Édimbourg. Il avait alors 28 ans, beaucoup acquis, lu, écrit, mais n'avait rien publié. Cette année même s'achevait la publication des lettres de Junius, ces pamphlets si retentissants et pourtant si mystérieux, dont on n'a jamais su l'auteur, qui donnèrent un coup de terrible au ministère de ce temps. Les élections nouvelles étaient imminentes, l'Angleterre dans la plus vive agitation. Marat, qui avait vu la terrible émeute pour Wilkes, il en parle 20 ans après, Marat, qui admirait, enviait sans doute le triomphe du pamphlétaire, devenu tout à coup shérif et lord maire de Londres, fit, en anglais, un pamphlet qu'il rendit, comme Junius, plus piquant par l'anonyme. Les chaînes de l'esclavage. Ce livre, souvent inspiré de Rénal qui venait de paraître, est, comme le dit l'auteur, une improvisation rapide. Il est plein de faits, de recherches variées. Le plan n'en est pas mauvais. Malheureusement, l'exécution est très faible, le style fade et déclamatoire. Peu de vue, peu de portée. Nul sentiment vrai de l'Angleterre. Il croit que tout le danger est du côté de la couronne. Il ignore parfaitement qu'avant tout, l'Angleterre est une aristocratie. Il venait de paraître à Londres, en 1772, un livre français qui faisait du bruit, livre posthume d'Helvétius, une sorte de continuation de son livre de l'esprit. Celui-ci avait pour titre « L'homme ». Marat ne perd point de temps. En 1773, il publie en anglais un volume en opposition, lequel, développé, délayé jusqu'à former 3 volumes, fut donné par lui en 1775 sous le titre suivant « De l'homme ou des principes et des lois de l'influence de l'âme sur le corps et du corps sur l'âme, Amsterdam ». Le faible et flottant éclectisme que nous avons observé dans les livres politiques et les journaux de Marat paraît singulièrement dans cet ouvrage de physiologie et de psychologie. Il semble spiritualiste, puisqu'il déclare que l'âme et le corps sont 2 substances distinctes, mais l'âme n'en tire guère avantage. Marat la place entièrement dans la dépendance du corps, déclarant ce que nous appellerions qualité morale, intellectuelle, courage, franchise, tendresse, sagesse, raison, imagination, sagacité, etc., ne sont pas des qualités inhérentes à l'esprit ou au cœur, mais des manières d'exister de l'âme qui tiennent à l'écart des organes corporels. Contrairement aux spiritualistes, ils croient que l'âme occupe un lieu, il la loge dans les méninges. Ils méprisent profondément le chef du spiritualisme moderne, Descartes. En psychologie, il suit Locke et le copie sans le citer. Tome 2 et 3, passime. En morale, il estime et loue La Rochefoucauld. Discours préliminaire, page 7, 12. Il ne croit pas que la pitié et la justice soient des sentiments naturels, mais acquis, factices. Tome 1, page 64 et 224, notes. Il assure que l'homme dans l'état de nature est nécessairement un être lâche. Il croit prouver qu'il n'y a point d'âme forte, puisque tout homme est irrésistiblement soumis aux sentiments et l'esclave des passions. 287. Quant au lien des 2 substances, il promet des expériences neuves et décisives. Il n'en donne aucune, rien que l'hypothèse vulgaire d'un certain fluide nerveux. Il nous apprend seulement que ce fluide n'est pas entièrement gélatineux, et la preuve, c'est que les liqueurs spiritueuses qui renouvellent si puissamment le fluide nerveux, ne contiennent pas de gélatine. Tout est de la même force. On y apprend que l'homme triste aime la tristesse et autre chose aussi nouvelle. D'autre part, l'auteur assure que la blessure n'est pas une sensation, que la réserve et la vertu des âmes unies à des organes tissus de fibres lâches ou compactes, etc. En général, il ne sort du banal que par l'absurde. Si l'ouvrage méritait une critique, celle qu'on pourrait lui faire, c'est surtout son indécision. Marat n'y prend nullement l'attitude d'un courageux disciple de Rousseau contre les philosophes. Il hasarde quelques faibles attaques contre leur vieux chef Voltaire, le mettant dans une note parmi les auteurs qui font de l'homme une énigme. Hume, Voltaire, Bossuet, Racine, Pascal. À cette attaque, le malicieux vieillard répondit par un article spirituel, amusant, judicieux, où, sans s'expliquer sur le fond, il montre seulement l'auteur, comme il est, charlatan et ridicule. « Telle est la mode, dit-il. On voit partout Arlequin qui fait la cabriole pour égayer le parterre. » Mélange littéraire, tome 48, page 234, inf 8, 1784. Quoique Marat parle beaucoup du prodigieux succès de ses livres en Angleterre, des boîtes d'or qu'on lui envoyait, il revint très pauvre. Et c'est alors, dit-on, qu'il fut parfois réduit à vendre ses remèdes sur les places de Paris. Cependant, son dernier livre pouvait le recommander. Un médecin quasi-spiritualiste ne pouvait déplaire à la cour. Un livre de médecine galante, j'avais oublié tout à l'heure d'indiquer ce caractère du livre de l'homme, pouvait réussir auprès des jeunes gens, à la cour du comte d'Artois. Il y a en effet souvent un ton galantin, des scènes équivoques ou sentimentales, aveux surpris, jouissances, etc., etc., sans compter tels aveux utiles sur l'effet de l'épuisement. Marat entra dans la maison du jeune prince, d'abord par l'humble emploi de médecin de ses écuries, puis avec le titre plus relevé de médecin de ses gardes du corps. C'est un des côtés assez tristes de l'ancien régime. Peu, bien peu des hommes de lettres, des savants qui devinrent hommes politiques, avaient pu se passer de haute protection. Tous eurent besoin de patronage. Beaumarchais fut d'abord auprès de Mesdames, puis chez Duvernet. Mably chez le cardinal de Tencin. Chamfort chez le prince de Condé. Rulhière chez Monsieur. Malouet chez Madame Adélaïde. Laclos, Madame de Genlis, Brissot chez le duc d'Orléans, etc., etc. Vergniaud fut élevé par la protection de Turgot et de Dupaty, Robespierre par l'abbé de Saint-Waast, Desmoulins par le chapitre de Lan, etc., etc. Marat ne recourut à la protection du comte d'Artois que tard et contraint par la misère. Il fut dans sa maison 12 ans. Dans cette position nouvelle, il s'interdit toute publication politique ou philosophique, revint tout entier aux sciences. Son génie belliqueux qui n'avait pas réussi contre Voltaire et les philosophes s'en prit à Newton. Il ne tenta pas moins que de renverser ce dieu de l'autel, se précipita dans une foule d'expériences athées, passionnées, légères, croyant détruire l'optique de Newton qu'il ne comprenait même pas. Se fiant peu au savant français, il invita Franklin à voir ses expériences. Franklin admira sa dextérité, mais ne jugea pas du fond même. Et Marat, peu satisfait, se mit immédiatement à travailler contre Franklin. Il voulait ruiner sa théorie sur l'électricité, et pour s'appuyer d'un suffrage illustre, il avait invité Volta à venir juger lui-même. Il n'eut pas son approbation. Le physicien Charles, célèbre par le perfectionnement de l'aérostat, a raconté souvent à un de nos amis, savant très illustre, qu'il surprit un jour Marat en flagrant délit de charlatanisme. Marat prétendait avoir trouvé de la résine qui conduisait parfaitement l'électricité. Charles tâta et sentit une aiguille cachée dans la résine qui faisait tout le mystère. Marat s'emporte, tire l'épée. Charles la saisit, la brise, terrasse Marat. Ce duel, qu'on a parfois raconté autrement, fut un duel à coups de poing. Personne ne fut blessé. La Révolution trouva Marat dans la maison du comte d'Artois, au centre des abus, des prodigalités, au milieu d'une jeune noblesse insolente, c'est-à-dire au lieu même où l'on pouvait le mieux connaître, haïr l'Ancien Régime. Il se trouva tout d'abord, et sans transition, lancé dans le mouvement. Il arrivait d'un voyage d'Angleterre quand eut lieu l'explosion du 14 juillet. Son imagination fut saisie de ce spectacle unique. L'ivresse lui gagna le cerveau et ne le quitta plus. Sa vanité aussi s'était trouvée flattée d'un hasard qui lui fit jouer un rôle dans la grande journée. Si l'on en croit une note qu'il envoya aux journalistes, 3 mois après le 14 juillet, Marat, se trouvant ce jour même dans la foule qui couvrait le Pont Neuf, un détachement de hussards aurait poussé jusque-là. Et Marat, servant d'organe à la foule, leur eut commandé de poser les armes, ce qu'ils ne jugèrent pas à propos de faire. Marat ne se comparait pas moins modestement à Horatius Coclès qui seul, sur un pont, arrête une armée. Mécontent des journalistes, qui ne l'avaient pas loué dignement, Marat vendit, il l'assure, les draps de son lit pour commencer un journal. Il essaya de plusieurs titres, en trouva un excellent, l'ami du peuple, ou le publiciste parisien, journal politique et impartial. Malgré ce style, parfois burlesque, comme on voit, toujours faible et déclamatoire, Marat réussit. Sa recette fut de partir, non du ton habituel des brochures et journaux français, mais des gazettes que nos libellistes réfugiés faisaient en Angleterre, en Hollande, du gazetier cuirassé de Morand et autres publications effrénées. Marat, comme eux, donna toutes sortes de nouvelles, de scandales, de personnalités. Il s'abstint des théories abstraites, inintelligibles au peuple, que tous les autres journalistes avaient le tort de l'obliger à lire. Il parla peu de l'extérieur, peu des départements qui alors remplissaient entièrement le journal des Jacobins. Il s'entra à Paris, au mouvement de Paris, aux personnes surtout qu'il accusa, désigna avec la légèreté terrible des libellistes ses modèles. Grande différence toutefois. Les scandales de Morand n'avaient de résultat que de rançonner les gens désignés, de valoir des écus à Morand. Ceux de Marat, plus désintéressés, envoyaient les gens à la mort. Tel, nommé par lui le matin, pouvait être assommé le soir. On s'étonne que cette violence uniforme, la même, toujours la même, cette monotonie de fureur qui rend la lecture de Marat si fatigante, ait toujours eu action, n'ait point refroidi le public. Rien de nuancé, tout extrême, excessif, toujours les mêmes mots. Infâme, scélérat, infernal. Toujours, même refrain, la mort. Nul autre changement que le chiffre des têtes à abattre. 600 têtes, 10 000 têtes, 20 000 têtes. Il va, s'il m'en souvient, jusqu'au chiffre singulièrement précisé de 270 000 têtes. Cette uniformité même qui semblait devoir ennuyer et blaser servit Marat. Il eut la force, l'effet d'une même cloche, d'une cloche de mort qui sonnerait toujours. Chaque matin, avant jour, les rues retentissaient du cri des colporteurs. « Voilà l'ami du peuple !» Marat fournissait chaque nuit 8 pages qu'on vendait le matin. Et à chaque instant, il déborde. Ce cadre ne lui suffit pas. Souvent le soir, il ajoute 8 pages, 16 en tout pour un numéro. Mais cela ne lui suffit pas encore. Ce qu'il a commencé en gros caractères, souvent il l'achève en petit pour concentrer plus de matière, plus d'injures, plus de fureur. Les autres journalistes produisent par intervalles, se relaient, se font aider. Marat jamais. L'ami du peuple est de la même main. Ce n'est pas simplement un journal, c'est un homme, une personne. Comment suffisait-il à ce travail énorme? Un mot explique tout. Il ne quittait pas sa table. Il allait très rarement à l'assemblée, au club. Sa vie était une, simple, écrire. Et puis, écrire. Écrire la nuit, le jour. La police aussi, de bonne heure, lui rendit le service de le forcer de vivre caché, enfermé, livré tout au travail. Elle doubla son activité. Elle intéressa vivement le peuple à son ami, persécuté pour lui, fugitif, en péril. En réalité, le péril était peu de chose. La vieille police de Lenoir et Sartine n'était plus. La nouvelle, mal réorganisée, incertaine et timide dans les mains de Bailly et de Lafayette, n'avait nulle action sérieuse. Sauf Favra, c'est l'assassin du boulanger François, il n'y eut nulle punition grave en 90 ni 91. Lafayette lui-même, loin de souhaiter la dictature, hâta auprès de l'Assemblée la mise en activité des procédures nouvelles qui achevèrent d'annuler le pouvoir judiciaire. Les gardes nationales, soldés qui faisaient sa vraie force, étaient composés en partie d'anciens gardes françaises, vainqueurs de la Bastille et qui jouait à regret le rôle des soldats de police. Mara gagna beaucoup d'argent par ce journal et vécut aisée, au jour le jour toutefois, au hasard d'une vie errante. Sa toilette bizarre exprimait son excentricité. Sale habituellement, il avait parfois des recherches subites, un luxe partiel et des velléités galantes. Un gilet de satin blanc, par exemple, avec un collet gras et une chemise sale. Ce retour de fortune qui souvent adoucit les hommes ne fit rien sur lui. Sa vie malsaine et irritante, toute renfermée, conserva ses fureurs entières. Il vit toujours le monde d'un jour étroit, oblique, de sa cave par un soupirail livide et sombre, comme ses murs humides, comme sa face à lui, qui semblait en prendre les teintes. Cette vie lui plaisait à la longue. Il jouissait de l'effet fantastique et sinistre qu'elle donnait à son nom. Il se sentait régner du fond de cette nuit. Il jugeait de là, sans appel, le monde de la lumière, le royaume des vivants, sauvant l'un d'un dans l'autre. Ses jugements s'étendaient jusqu'aux affaires privées. Celle des femmes semble lui être spécialement recommandable. Il protège une religieuse fugitive, il prend parti pour une dame en querelle avec son mari, et fait à ce mari d'effroyables menaces. Une vie à part exceptionnelle qui ne permet pas à l'homme de contrôler ses jugements par ceux des autres hommes, rend aisément visionnaire. Mara n'était pas éloigné de se croire la seconde vue. Il prédit sans cesse, au hasard. En cela, il flatte singulièrement la disposition des esprits. Les misères extrêmes les rendaient crédules, impatients de l'avenir. Ils écoutaient avidement ce Mathieu Lenzberg. Chose curieuse, personne ne voit qu'il se trompe à chaque instant. Cela est frappant néanmoins pour les affaires extérieures. Il ne soupçonne nullement le concert de l'Europe contre la France. Pour l'intérieur, voyant tout en noir, il risque peu de se tromper. On relève avec admiration tout ce qui s'accomplit des paroles du prophète. Les journalistes même, peu jaloux de celui qu'ils jugent un fou sans conséquence, ne craignent pas de le relever, de s'extasier. Ils l'appellent le divin Marat. Dans la réalité, son excessive défiance lui tient lieu parfois de pénétration. Le jour, par exemple, où Louis XVI sanctionne le décret qui exige le serment des prêtres, Marat lui adresse des paroles pleines de force et de sens. Il rappelle son éducation, ses précédents de famille, et lui demande par quelle sublime vertu il a mérité que Dieu lui accordât ce miracle de s'affranchir du passé et de devenir sincère. Ses éclairs de bon sens sont rares. Il a bien plus souvent parmi ses cris de fureur des accès de charlatanisme, de ventrilles délirantes qu'un fou seul peut hasarder. Si j'étais tribun du peuple et soutenu par quelques milliers d'hommes déterminés, je réponds que, sous six semelles, la constitution serait parfaite, que la machine politique marcherait au mieux, qu'aucun fripon public n'oserait la déranger, que la nation serait libre et heureuse, qu'en moins d'une année elle serait florissante et redoutable, et qu'elle le serait tant que je vivrai. 26 juillet 90, numéro 173. Ce qui fait grand tort à Marat, dans mon esprit plus que toutes ses fureurs, c'est qu'il n'est pas tellement furieux et monomane, qu'il ne se rappelle à merveille ses ennemis personnels, des gens même dont il n'eut à se plaindre que fort indirectement, et l'on ne peut pas dire que ce soit des hommes si dangereux qu'il a dû imposer silence à sa générosité, et faire l'effort de les proscrire, quoiqu'ils fussent ses ennemis. C'étaient des gens inoffensifs, et quoique honorablement posés dans le monde, sans importance politique. S'il voulait mériter ce grand nom d'ami du peuple, s'il voulait rendre sacré le rôle terrible d'accusateur national qu'il s'était donné, il fallait d'abord être pur, désintéressé. L'être d'argent ne suffit pas, il faut être aussi pur de haine. Il devait commencer une vie grande et toute nouvelle, ne pas se souvenir qu'il y avait eu autrefois un docteur Marat, un auteur bien ou mal jugé, en guerre avec les savants de l'époque. L'Académie des sciences, coupable d'avoir dédaigné ce qu'il nomme ses découvertes, est poursuivie, désignée dans sa feuille et dans un pamphlet réimprimé exprès comme aristocrate. Des hommes paisibles comme Laplace et Lalande, un véritable patriote d'un grand caractère, monge, sont signalés à la haine. Ils ne les accusent pas seulement d'incivisme, mais de vol. L'argent donné à l'Académie pour faire des expériences, ils vont le manger, dit-il, à la râpée ou chez les filles. L'objet principal de cette rage envieuse, c'est naturellement le premier du temps. Celui qui venait d'opérer dans la science une révolution rivale de la révolution politique, celui devant qui s'inclinaient Laplace et Lagrange, je parle de Lavoisier. On sait que Lagrange fut tellement frappé du grandiose aspect de ce monde chimique dont Lavoisier venait d'arracher le voile, que 10 ans durant, il en oublia les mathématiques, ne pouvant plus supporter la sécheresse du calcul abstrait lorsque s'ouvrait devant lui le sein profond de la nature. Ce grand révolutionnaire Lavoisier n'eût pu faire sa révolution s'il n'eût été riche. Et c'est pour cela qu'il avait voulu être fermier général. Loin de prendre de ses fonctions l'esprit de fiscalité, il conseilla l'abaissement de plusieurs impôts, soutenant que le revenu croîtrait loin de diminuer. Créé par Turgot, directeur des poudres, il abolit l'usage vexatoire de fouiller les caves pour y prendre le salpêtre. Une chose fera juger son cœur. Au milieu de tant de travaux et de fonctions diverses, Il trouvait le temps de se livrer à une longue, pénible, dégoûtante recherche, l'étude des gaz qui se dégagent des fosses d'aisance, sans autre espoir que de sauver la vie à quelques malheureux. Voilà l'homme, Katakamara. Celui qu'il appelle un apprenti chimiste à 100 000 livres de rente. Ses accusations persévérantes, réitérées sous plusieurs formes, préparent l'échafaud de Lavoisier. Celui-ci, qui sent si bien qu'ayant tant fait et tant à faire, sa vie est d'un prix inestimable pour le monde, ne songe nullement à fuir. Il ne devinera jamais la stupidité funeste qui peut voler une telle vie à la science, au genre humain. Et la haine cependant grandit, cultivée par Marat. Il n'a pu tuer Newton, il tuera, pour se consoler, le Newton de la chimie. Il ne faut pas croire que les conseils meurtriers de Marat soient des mots, des vœux. Ce sont trop souvent des réalités, des exécutions immédiates. Ainsi, dans son numéro 313, 17 décembre 90, une lettre qu'on lui écrit nous apprend que, de ceux qu'il désignait à la mort, 4 viennent d'être assommés. Tout son chagrin, c'est qu'on ne suive pas encore la même méthode à l'égard de l'Assemblée nationale. Il assure, le 21 octobre 90, que si, de temps à autre, on promenait quelques têtes autour de l'Assemblée, la Constitution était bientôt et faite et parfaite. Mieux encore vaudrait, selon lui, si ces têtes étaient prises dans l'Assemblée même. Le 22 septembre, le 15 novembre, et dans d'autres occasions, il prit instamment le peuple d'emplir ses poches de cailloux et de lapider dans la salle les députés infidèles. Il insiste le 24 novembre pour que ses chers camarades courent à l'Assemblée toutes les fois que Marat, leur incorruptible ami, leur donnera le conseil. Au mois d'août 1790, lorsque Marat et Camille Desmoulins furent accusés par Maloué à l'Assemblée nationale, Camille, bientôt tirée d'affaire, alla trouver Marat et l'engagea à désavouer quelques paroles horriblement sanguinaires qui faisaient tort à la cause. Marat, le lendemain, compte tout dans son journal en se moquant de Camille. Loin d'avouer que ces paroles excessives lui sont venues par entraînement, il déclare qu'elles lui semblent dictées par l'humanité. C'est être humain que de verser un peu de sang pour éviter plus tard d'en répandre davantage, etc. Il reproche la peur à Camille Desmoulins qui pourtant avait montré beaucoup d'audace. Placé dans une tribune, écoutant son accusateur à ces mots de Maloué, « Oserait-il démentir ?» Elle répondit tout haut, « Je l'ose. » La partie n'était pas égale entre lui toujours au grand jour et Marat toujours caché. Celui-ci ne se montrait que dans de rares occasions où, le banc et l'arrière-banc des fanatiques étant convoqués, il se sentait environné d'impénétrable mur et plus sûr que dans sa cave. En janvier 91, Marat prêchait le massacre des gardes nationales soldés. Il recommandait aux femmes Lafayette lui-même. « Faites-en un abeillard !» Un faillettiste qui faisait le journal des Halles osa l'appeler devant les tribunaux. Il sortit de ses ténèbres, va au palais, comparut. La chauve-souris effraya la lumière de son aspect. Il n'avait pas grand-chose à craindre. Une armée l'environnait. L'auditoire était rempli de ses frénétiques amis. Toutes les avenues, tous les passages pleins et combles d'un peuple prodigieusement exalté. Pour que la justice eût son cours, il fallut une bataille rangée, et il y eut un massacre. L'autorité craignit de ne pouvoir même protéger la vie du plaignant. On l'empêcha de se présenter. Marat, vainqueur sans combat, se trouva avoir démontré le néant des tribunaux, de la police, de la garde nationale, de Bailly et de Lafayette. Dès ce jour, il eut sans conteste une royauté de délation. Ses transports les plus frénétiques furent sacrés, son bavardage sanguinaire, mêlé trop souvent de rapports perfides qu'il copiait sans jugement, fut pris comme oracle. Désormais, il peut aller grand train dans l'absurde. Plus il est fou, plus il est cru. C'est le fou en titre du peuple. La foule en rit, l'écoute et l'aime, et ne croit plus que son fou. Il marche, la tête en arrière, fier, heureux, souriant dans sa plus grande fureur. Ce qu'il a poursuivi en vain toute sa vie, il l'a maintenant. Tout le monde le regarde, parle de lui, a peur de lui. La réalité dépasse tout ce qu'il a pu, dans les rêves de la vanité la plus délirante, imaginée, souhaitée. Hier, un grand citoyen, aujourd'hui voyant, prophète, pour peu qu'il devienne plus fou, ce voyant va passer Dieu. Il va, et toutes les concurrences de la presse se déchaînent sur sa trace. Le suivent à l'aveugle dans les voies de la terreur. La presse comptait de bons esprits, hardis mais élevés, humains, vraiment politiques. Pourquoi s'y vertit Marat? Dans la situation infiniment critique où était la France, n'ayant ni la paix ni la guerre, ayant au cœur cette royauté ennemie, cette conspiration immense des prêtres et des nobles, la force publique se trouvant justement aux mains de ceux contre qui on devait la diriger, quelle force restait à la France? Nul autre se semble, au premier coup d'œil, que la terreur populaire. Mais cette terreur avait un effroyable résultat. En paralysant la force ennemie, écartant l'obstacle actuel momentané, elle allait créant toujours un obstacle qui devait croître et nécessiter l'emploi d'un nouveau degré de terreur. L'obstacle qu'elle suscita, qui pesa sur nous de partout, nous écrasa presque. C'est cette chose petite d'abord, faible, plaintive, qui monte, grandit, devient immense, un géant, un spectre sanglant, terrible contre la terreur, le spectre de la pitié. Il eut fallu un grand accord de toutes les énergies du temps, telles qu'on pouvait l'espérer difficilement d'une génération si mal préparée pour organiser un pouvoir national vraiment actif, une justice redoutée mais juste, pour être fort sans terreur, pour prévenir par conséquent la réaction de la pitié qui a tué la révolution. Les hommes dominants de l'époque différaient dans le principe bien moins qu'on ne croit. Le progrès de la lutte élargit la brèche entre eux, augmenta l'opposition. Chacun d'eux, à l'origine, aurait eu peu à sacrifier de ses idées pour s'entendre avec les autres. Ce qu'ils avaient à sacrifier surtout, et ce qu'ils ne purent jamais, c'était les tristes passions que l'ancien régime avait enracinées en eux. Dans les uns l'amour du plaisir, de l'argent, dans les autres l'aigreur et la haine. Le plus grand obstacle, nous le répétons, fut la passion, bien plus que l'opposition des idées. Et ce qui manqua à ces hommes du reste si éminents, ce fut les sacrifices, l'immolation de la passion. Le cœur, si j'osais le dire, quoique grand dans plusieurs d'entre eux, le cœur et l'amour du peuple ne furent pas assez grands encore. Voilà ce qui, les tenant isolés, sans lien, faibles, les obligea dans le péril de chercher tous une force factice dans l'exagération, dans la violence. Voilà ce qui mit tous les orateurs de clubs, tous les rédacteurs de journaux à la suite de celui qui, plus égaré, pouvait être sanguinaire, sans hésitation ni remords. Voilà ce qui attela toute la presse à la charrette de Marat. Des causes personnelles, souvent bien petites, misérablement humaines, contribuaient à les faire tous violents. Ne rougissons pas d'en parler. La profonde incertitude où se trouvait le génie le plus fort, le plus pénétrant peut-être de toute la Révolution, c'est de Danton que je parle, sa fluctuation entre les parties qui lui faisaient, dit-on, recevoir de plusieurs côtés, comment pouvait-il la couvrir sous des paroles violentes? Son brillant ami Camille Desmoulins, le plus grand écrivain du temps, plus pur d'argent mais plus faible, est un artiste mobile. La concurrence de Marat, sa fixité dans la fureur que personne ne peut égaler, jette par moments Camille dans ses sorties violentes, une émulation de colère très contraire à sa nature. Comment l'imprimeur Prudhomme, ayant perdu Loustalot, pourra-t-il soutenir la révolution de Paris? Il faut qu'il soit plus violent. Comment l'orateur du peuple, Fréron, l'intime ami de Camille Desmoulins et de Lucile, qui loge dans la même maison, qui aime et envie Lucile, comment peut-il espérer de briller devant l'éloquent, l'amusant Camille? Par le talent? Non. Mais par l'audace, peut-être. Il sera plus violent. Mais en voici un qui commence et qui va les passer tous. Un aboyeur des théâtres. Hébert a l'heureuse idée de réunir dans un journal tout ce qu'il y a de bassesse, de mots ignobles, de jurons dans tous les autres journaux. La tâche est facile, on crie. Grande colère du père Duchesne. Il est en colère ce matin, le père Duchesne. Le secret de cette éloquence est d'ajouter de trois en trois mots. Pauvre Marat, que feras-tu? Ceci est une concurrence. Vraiment, ta fureur est fade. Elle n'est pas comme celle d'Hébert, assaisonnée de bassesse. Tu m'as l'air d'un aristocrate. Il faut essayer à jurer aussi. 16 janvier 91. Ce n'est pas sans les efforts inouïs, toujours renouvelés, de rage et d'outrage que tu peux tenir l'avant-garde. C'est un caractère du temps qui mérite d'être observé, que cet entraînement mutuel. En suivant attentivement les dates, on comprendra mieux ceci. C'est le seul moyen de saisir le mouvement qui les précipite, comme s'il y avait un prix proposé pour la violence, de suivre cette course à mort de club à club et de journaux à journaux. Là, tout crie à son écho. La fureur pousse la fureur. Tel article produit tel article est toujours plus violent. Malheur à qui reste derrière. Presque toujours, Marat à l'avance sur les autres. Quelquefois, passe devant Fréron, son imitateur. Prudhomme, plus modéré, a pourtant des numéros furieux. Alors Marat court après. Ainsi, en décembre 90, quand Prudhomme a proposé d'organiser un bataillon de cébolas contre les Tarquins, une troupe de tueurs de rois, Marat devient enragé, vomit mille choses sanguinaires. Ce crescendo de violence n'est pas un phénomène particulier aux journaux. Il ne faut généralement qu'exprimer et reproduire la violence des clubs. Ce qui fut hurlé le soir s'imprime la nuit à la hâte, se vend le matin. Les journalistes royalistes versent le même au public les flots de fiel, d'outrage et d'ironie qu'ils ont puisé le soir dans les salons aristocratiques. Les réunions du pavillon de Flore chez Madame de Lamballe, celles que tiennent chez eux les grands seigneurs près d'immigrés, fournissent des armes à la presse tout aussi bien que les clubs. L'émulation est terrible entre les deux presses. C'est un vertige de regarder ces millions de feuilles qui tourbillonnent dans les airs, se battent et se croisent. La presse révolutionnaire, toute furieuse d'elle-même, est encore aiguillonnée par la pénétrante ironie des feuilles et pamphlets royalistes. Ceci pullulent à l'infini. Ils puisent à volonté dans les 25 millions annuels de la liste civile. Montmorin avoue à Alexandre Lalamette qu'il avait en peu de temps employé 7 millions à acheter des jacobins, à corrompre les écrivains, des orateurs. Ce qui coûtait les journaux royalistes, l'ami du roi, les actes des apôtres, etc. Personne ne peut le dire, pas plus qu'on ne saura jamais ce que le duc d'Orléans a pu dépenser en émeute. Lutte immonde, lutte sauvage à coups de pierre, à coups d'écu. L'un assommé, l'autre avili. Le marché des âmes d'une part et de l'autre la terreur.